Et si l'histoire de punition divine la plus célèbre de toute l'histoire humaine, ce fameux récit de l'expulsion du jardin d'Éden, c'était pas du tout une histoire de punition en fait.
Ah, ça c'est une perspective qui bouscule pas mal de certitudes. C'est vrai que l'imaginaire collectif, il retient souvent l'image d'un juge cosmique qui abat son marteau avec fureur pour condamner l'humanité.
Mais les textes originaux racontent une toute autre dynamique, c'est ça?
Exactement. Les sources disent vraiment autre chose quand on les regarde de près.
Du coup, aujourd'hui, on plonge dans une analyse franchement fascinante, tirée des notes théologiques du docteur Kenneth Matthews sur les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse, et même au-delà.
Tout à fait. Et c'est des notes qui vont assez loin dans la structure du texte.
Notre mission avec ces sources, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre ce qui se passe mécaniquement, mais alors vraiment après la chute. L'objectif, c'est pas forcément d'endosser ces textes comme une vérité absolue, mais plutôt de décortiquer la grille de lecture qu'ils proposent.
Oui, de voir comment le texte explique la réorganisation de la société humaine, l'espoir et la nature même de l'amour divin, quoi.
Voilà. Bon, décortiquons tout ça. Parce que, au lieu d'une cour de justice pénale, l'auteur nous invite plutôt à entrer dans le cabinet d'un médecin, en fait.
C'est une excellente façon de le formuler. Les sources qu'on examine aujourd'hui, elles suggèrent que ces textes agissent un peu comme un diagnostic clinique des luttes humaines.
Un diagnostic clinique, d'accord.
Ouais, ils n'essayent pas seulement de raconter genre un événement passé, mais de fournir une explication structurelle sur le pourquoi des dysfonctionnements du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Donc pour saisir cette structure une fois sortie du jardin, il faut vraiment regarder à la loupe le diagnostic posé à la porte de sortie.
Absolument, et ça commence par l'analyse des jugements.
Ce qui nous amène directement à ces fameux oracles de jugement prononcés sur l'homme et la femme dans Genèse 3. Et là, je dois faire l'avocat du diable d'emblée parce que je suis assez curieuse. Le docteur Matthews soutient que ces oracles sont descriptifs et non prescriptifs.
Ah oui, c'est une nuance cruciale.
Mais attends une seconde. Pendant des siècles, ce texte précis, il a été brandi comme un mandat divin absolu, non? Genre pour justifier des hiérarchies patriarcales super strictes. Comment l'auteur justifie ce renversement total?
Ah c'est vraiment le cœur du débat. Et Matthews s'appuie sur la grammaire et le champ d'application du texte lui-même.
La grammaire, c'est-à-dire?
En gros, mécaniquement, un ordre divin dans la Bible, ça utilise la forme impérative. Un commandement clair, comme « tu ne tueras point », tu vois.
Ah oui, un ordre net et précis.
Voilà. Mais ici, la formulation hébraïque, elle est au futur indicatif. Ça décrit plutôt une conséquence naturelle, un rapport de cause à effet. Le texte dit en substance « voici comment vos relations vont se dégrader à partir de maintenant ».
Ah d'accord, c'est pas une loi universelle alors.
Et en plus de ça, l'auteur souligne que ce diagnostic est strictement limité à la sphère intime du foyer.
Ah ouais?
Oui, il n'y a absolument aucun mandat dans ce passage instituant une domination masculine dans la société civile, le gouvernement ou le commerce. C'est le constat d'une corruption de l'harmonie originelle. C'est pas la création d'une nouvelle loi sociale.
D'accord, je vois super bien la nuance. C'est la différence entre un médecin qui te dirait « à cause de cet accident, vous allez boiter » et un juge qui dirait « je vous condamne à boiter pour le reste de votre vie ».
C'est exactement ça. C'est le constat d'une fracture.
Mais alors, comment cette fracture se manifeste exactement? Parce que Matthews parle d'une lutte pour le contrôle et il fait un lien linguistique avec le chapitre suivant qui est franchement troublant.
Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est que c'est l'un des arguments les plus forts de cette analyse. Dans Genèse 3, le texte dit à la femme que son désir se portera vers son mari et qu'il dominera sur elle.
Oui, le mot « désir ».
Sauf que, dans notre langage moderne, le mot « désir » a une connotation romantique ou affective. Mais l'hébreu utilise le mot « teshuka ».
Teshuka, d'accord.
Et pour en comprendre le sens mécanique, l'auteur nous renvoie à Genèse 4, lors de la confrontation entre Dieu et Caïn, juste avant le meurtre d'Abel.
Oh, c'est l'image de l'animal prédateur, c'est ça?
Le texte dit que le péché est tapi à la porte de Caïn et que ses désirs se portent vers lui, mais que Caïn doit le dominer.
Exactement. C'est le même mot hébreu, teshuka.
Et dans le contexte de Caïn, ce désir n'a rien de romantique, c'est une évidence.
C'est clair.
C'est une volonté de possession absolue, tu vois. Un désir de contrôle, de dévoration même.
Waouh! Donc si on applique cette même définition à la relation de couple du chapitre d'avant...
Le diagnostic prend tout son sens, oui. La tragédie de la chute, selon ce texte, c'est la perte d'une unité de but où les partenaires se soumettaient l'un à l'autre dans l'amour.
Et ça devient quoi à la place?
À la place, on installe un champ de bataille. L'un cherche à manipuler ou contrôler, l'autre réplique par la domination écrasante.
C'est super fascinant parce que ça explique pourquoi ce texte a pu être si facilement instrumentalisé par la suite.
Absolument, c'est très logique au fond.
Ben oui, si la condition humaine post-traumatique par défaut, c'est une lutte de pouvoir pour dominer l'autre, c'est logique que les humains aient pris ce diagnostic descriptif pour en faire une institution politique ou religieuse. On a carrément légiféré le symptôme de la maladie.
C'est une très bonne synthèse. D'ailleurs, les notes mentionnent que plus tard, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul exhorte à revenir à l'honneur mutuel et non à maintenir cette domination.
Ce qui prouve bien que c'était pas un état idéal, mais ça soulève un immense paradoxe.
Lequel ?
Si le diagnostic révèle une nature humaine désormais complètement obsédée par le pouvoir et la domination, pourquoi l'humanité n'est-elle pas purement et simplement maudite à ce moment-là du récit ?
C'est la grande surprise de cette architecture narrative. Quand on regarde attentivement le texte, le sol est maudit en raison des actions de l'homme. Le serpent est maudit aussi. Mais ni l'homme ni la femme ne reçoivent de malédiction directe.
C'est quand même super contre-intuitif. Enfin, ils viennent de briser le contrat cosmique. Ils introduisent ce désir de domination prédatrice dans le monde, mais l'humanité reste rachetable.
Exactement, il n'y a pas de condamnation définitive sur leur nature.
D'ailleurs, la source souligne que la grâce divine s'active presque mécaniquement, genre instantanément. Au lieu de les anéantir, on voit l'apparition des vêtements de peau fournis par la divinité.
Et ces vêtements de peau, il faut bien comprendre que c'est pas qu'un simple détail vestimentaire. Ils introduisent un mécanisme théologique fondamental, l'expiation.
L'expiation, d'accord. Parce qu'il faut tuer un animal.
C'est ça. Pour habiller l'humain de peau, il faut qu'un animal meure. Dans la logique du Proche-Orient ancien, une fracture de l'ordre moral crée une dette de vie.
Une dette de vie, ok.
La mort entre donc dans le monde physique, mais sous la forme d'une substitution. La vie de l'animal couvre la dette et sa peau couvre littéralement la honte psychologique et sociale de l'humain.
C'est fort comme image. Et d'ailleurs, Adam ne réagit pas comme quelqu'un qui s'attend à être foudroyé dans la seconde. Le texte indique qu'au milieu de ce désastre absolu, il nomme sa femme Ève.
Ce qui signifie « mère de tous les vivants », oui.
Voilà. C'est un acte de foi tourné vers l'avenir, vers la certitude qu'il y aura une descendance. Mais du coup, si l'humanité n'est pas maudite, s'il y a une expiation et de l'espérance, qu'est-ce qu'ils ont réellement perdu en quittant ce jardin ?
C'est la vraie question.
Parce que le texte insiste sur le fait qu'ils se cachent. L'ironie est d'ailleurs assez mordante, je trouve. Ils se cachent de leur créateur au milieu des arbres même que ce créateur avait conçus pour eux. S'ils ne sont pas maudits, pourquoi cette terreur ?
Alors, c'est ici que l'analyse du docteur Matthews fait une distinction vraiment chirurgicale entre deux concepts, l'image de Dieu et la gloire de Dieu.
Il y a une différence entre les deux.
Énorme différence. Selon les textes bibliques ultérieurs, comme Genèse 9 ou l'épître de Jacques par exemple, l'humanité ne perd jamais l'image de Dieu.
L'image de Dieu, c'est quoi exactement alors ?
Cette image, c'est le statut de « personne ». C'est la valeur intrinsèque et inaliénable de chaque être humain. Le reflet divin, il est toujours là.
D'accord, donc l'image de Dieu agit un peu comme l'ADN de l'humanité, on ne peut pas le perdre. Mais alors qu'est-ce qui a disparu dans l'histoire ?
Ce qui a disparu, c'est ce que le psaume 8 appelle l'honneur et la gloire.
L'honneur et la gloire ?
Oui. Pour bien comprendre, il faut regarder le rôle initial de l'humain dans ce récit. L'humanité n'a pas été créée pour être un simple occupant du jardin, genre un locataire passif, mais pour agir en tant que vice-régente.
C'est un terme un peu téconte, ça, vice-régente. Pour simplifier, on pourrait dire que c'est une sorte de cadre intermédiaire du cosmos, non ? Ils répondent au PDG, mais ce sont eux qui gèrent les opérations quotidiennes sur le terrain avec une autorité déléguée.
C'est exactement ça. C'est une parfaite analogie. Il devait exercer une gérance bienveillante et juste sur la création, tout en reflétant le caractère du PDG.
D'accord.
Et cette autorité, cette couronne symbolique, c'est ça la gloire et l'honneur. Et c'est cela qui est perdu lors de la rébellion. La culpabilité et la honte qui les poussent à se cacher proviennent de cette perte de statut royal et pas d'une perte de leur humanité fondamentale.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, si je rassemble les pièces du puzzle... Si l'image est intacte, mais que la gloire est perdue, on a affaire à un monarque qui aurait été renversé, en fait.
Oui, un roi sans royaume.
Ce roi déchu, il conserve son ADN royal, sa dignité intrinsèque, son identité profonde. Mais il a été complètement dépouillé de son trône, de ses insignes et de son royaume. Il erre en exil, en haillons, mais son sang reste royal.
La métaphore du monarque déchu, elle est parfaite pour expliquer ça. Et ce qui est d'autant plus révolutionnaire dans la lecture de Mathieu, c'est ce qu'il appelle la démocratisation de l'honneur.
Ah oui, les notes insistent vachement lourdement là-dessus. C'est l'idée que ce statut royal, avant d'être perdu, était partagé par absolument tout le monde, c'est ça?
Mécaniquement, oui. Ça signifie que le texte originel ne conçoit aucune classe sociale.
Zéro hiérarchie.
Zéro. Hommes, femmes, indépendamment de leur âge, de leur ethnie ou même de leur capacité cognitive ou physique, bah, tous sont créés avec ce même ADN royal. Dans l'Antiquité, franchement, c'est un nivellement par le haut qui est tout simplement stupéfiant.
Mais c'est incroyable, et ça crée une tension narrative immense, du coup. Parce que, si on suit cette logique, nous avons une humanité entière, composée de rois et de reines en exil, avec une dignité immense, mais sans aucun pouvoir légitime, condamnés à se battre entre eux pour le contrôle, notre fameux diagnostic du péché tapis à la porte.
C'est exactement la tension du texte.
Littérairement parlant, une histoire peut pas laisser une telle tension irrésolue. Je veux dire, un monarque déchu cherche toujours un moyen de récupérer sa couronne. Alors comment cette autorité perdue peut-elle être restaurée?
C'est précisément la question qui sert de moteur à l'ensemble du récit biblique, en fait. Et l'analyse nous emmène vers le Nouveau Testament pour en voir la résolution mécanique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre du, reprend directement le psaume 8 dont on parlait à l'instant.
Ok, donc il fait le lien direct.
Oui, il fait le constat que, pour l'instant, l'humanité ne domine pas sur la création comme elle le devrait. La couronne est toujours manquante. Mais ensuite, le texte introduit Jésus-Christ comme un second Adam.
Ah, un second Adam. Et c'est là que la mécanique de la restauration se met en place. Mais comment ce second Adam récupère la couronne pour les autres? C'est pas par une conquête militaire, j'imagine?
Non, pas du tout. Le texte dit qu'il accepte d'être rendu un peu moins que les anges.
Ce qui implique de revêtir cette humanité déchue, c'est ça? Et de souffrir volontairement la mort. L'expiation dont on parlait tout à l'heure avec les peaux d'animaux atteint ici sa forme ultime.
C'est le sacrifice parfait, oui. Et en raison de cette obéissance parfaite, ce second Adam est couronné de la gloire et de l'honneur qui avaient été perdus.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifiait au fond? Pourquoi il fait ça?
Ce qui est dingue, c'est le but final de cette opération. L'auteur d'Hébreux affirme que l'objectif de cette souffrance, c'est de conduire plusieurs fils à la gloire.
Donc c'est pour nous la redonner.
Voilà. Le plan de rédemption n'est pas un simple effacement d'ardoise pénale. Il ne s'agit pas juste d'éviter une punition ou d'obtenir un ticket d'entrée pour l'au-delà, quoi. Si on relie cela à la situation dans son ensemble, mécaniquement, c'est une glorification active. C'est la réintégration cosmique de l'humanité dans sa fonction de vice régente.
Mais c'est vertigineux de voir des textes séparés par des siècles, voire des millénaires, s'emboîter avec une telle précision chirurgicale. On parle d'un roi exilé dans la Genèse, chanté dans les psaumes et restauré dans l'Épître aux Hébreux.
C'est une continuité littéraire et théologique assez remarquable, c'est sûr.
D'ailleurs, les notes soulignent que dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus prie spécifiquement pour partager cette gloire originelle avec ses disciples.
Oui, il veut partager ce qui a été restauré.
Mais du coup, ça m'amène à une question de fond. Pourquoi s'embêter à faire tout ça? Je veux dire, pourquoi un créateur mettrait en place un plan de sauvetage cosmique aussi coûteux impliquant sa propre souffrance, juste pour réintégrer des cadres intermédiaires rebelles? Pour comprendre le pourquoi, j'imagine qu'il faut se pencher sur la nature même de ce créateur.
Absolument. Et c'est là que l'analyse du docteur Matthews plonge dans la notion de pluralité divine. Une pluralité qui est présente dès les tout premiers mots du récit.
Dès la Genèse?
Oui, et c'est ce qui différencie radicalement ce texte de son environnement culturel de l'époque.
Ah oui, on entre dans le concept de la Trinité, esquissé dans l'Ancien Testament. Dès Genèse 1, on trouve un pluriel inattendu. Faisons l'être humain à notre image. Le Créateur se parle au pluriel, tandis que son esprit plane sur les eaux.
Et plus tard, dans Genèse 18, il y a aussi cette scène mystérieuse où trois hommes visitent la tente d'Abraham. Mais le texte identifie clairement l'un d'eux comme étant l'Éternel, Yahweh lui-même.
C'est super intriguant.
Et si on relie cela aux textes ultérieurs comme Jean 1 ou l'Épître aux Colossiens, qui affirment que la parole ou le Fils était l'agent actif de la création, on découvre une dynamique essentielle. Le docteur Matthews fait ici une comparaison conceptuelle très éclairante avec le polythéisme.
Le polythéisme avec tous les dieux de l'Antiquité, c'est ça?
Voilà. Si l'on observe les mythologies du Proche-Orient ancien, bah, le polythéisme décrit des dieux en perpétuel conflit. Ils luttent pour le pouvoir et les ressources. Et les humains y sont souvent créés comme de simples esclaves pour faire le travail que les dieux refusent d'accomplir, tu vois.
Ah! Ce qui explique pourquoi le texte de la Genèse, avec sa fameuse démocratisation de l'honneur dont on a parlé, était si révolutionnaire. On n'est pas des esclaves, on est des rois.
Exactement. Mais Matthieu va plus loin. Il compare aussi ce dieu trinitaire avec ce qu'il appelle des dieux monopersonnels. Il prend l'islam comme point de comparaison conceptuel dans les sources, d'ailleurs.
Un dieu monopersonnel, c'est-à-dire un dieu absolument unique et solitaire, c'est ça ?
Oui, une entité divine strictement solitaire, avant l'existence du temps et de l'espace. Et le problème logique, c'est que, pour un tel dieu, l'amour, mécaniquement parlant, ne peut exister qu'en réaction à la création.
C'est une déduction logique implacable, en fait. Pour aimer, il faut un objet d'affection. Donc, si le dieu est seul...
L'amour n'est pas son essence première. C'est une action qui nécessite l'existence des humains. Le dieu solitaire aurait donc, en quelque sorte, un besoin ontologique de créer pour expérimenter l'amour.
Ah, je vois.
En revanche, le modèle trinitaire biblique propose une communauté éternelle. Le Père aime le Fils aime le Père, et l'Esprit est le lien de cet amour. L'amour est donc l'essence même de la réalité, et ce, avant même l'apparition de la première particule de matière.
D'accord. Pour rendre ça un peu plus concret, imaginons la différence entre un romancier solitaire et un groupe de musique.
Ah, j'aime bien cette image.
Ben, un dieu monopersonnel, ça ressemble au romancier enfermé dans son bureau, tu vois. Pour exprimer de l'affection ou de la créativité relationnelle, il est obligé d'inventer des personnages sur du papier. Sinon, il reste dans un silence absolu.
Oui, il a besoin de son œuvre.
À l'inverse, un dieu trinitaire, ça fonctionne plutôt comme un groupe de musiciens exceptionnels en train de faire un bœuf. Ils s'écoutent, ils se répondent, la musique existe déjà, la joie est déjà parfaite. Ils n'ont absolument aucun besoin de public pour que la symphonie soit complète. Mais ils décident d'ouvrir les portes du studio et de créer le monde uniquement pour inviter d'autres personnes à venir se joindre à la musique.
C'est une analogie géniale, elle illustre parfaitement le mécanisme de la grâce décrit dans ces textes. La création n'est pas née d'un manque divin, mais d'une surabondance, un débordement joyeux, quoi.
Un débordement, c'est un beau terme.
Et cela soulève une question importante par rapport à ce que tu demandais tout à l'heure. Pourquoi un tel plan de sauvetage ? Ben, si la création est une invitation à participer à cette danse éternelle d'amour, le créateur relationnel ne pouvait pas simplement abandonner ses invités lorsqu'ils ont transformé la salle de bal en champ de bataille.
Ah oui, c'est cohérent.
La restauration, c'est pas une obligation administrative. C'est le prolongement naturel de cet amour préexistant qui se donne pour réparer la fracture.
Quel parcours intellectuel. Franchement, si on prend un peu de recul pour synthétiser tout ce que ces sources nous ont apporté aujourd'hui. On a commencé par démonter l'idée d'un jugement-jeur pour découvrir, à la place, un diagnostic médical brutal sur la condition humaine.
Oui, cette tendance chronique au contrôle et à la domination mutuelle.
Ce fameux péché tapis à la porte. Et face à cette fracture, mais l'analyse révèle qu'au lieu de la destruction pure et simple qu'on attendait, un mécanisme d'expiation est immédiatement mis en place, préservant la valeur intrinsèque de l'humanité tout en actant la perte de son honneur royal.
C'est ça. Et ça nous a conduit à l'idée d'un second Adam venant récupérer cette couronne pour la restituer à une humanité conçue par une communauté divine débordante d'amour.
Et c'est ici qu'on touche à l'aspect le plus pratique de cette théorie, je trouve. Parce que si l'on applique rigoureusement la grille de lecture de Matthews à notre monde moderne, les implications sociales sont carrément massives.
Oh, absolument. Comprendre mécaniquement la démocratisation de l'honneur, l'idée que chaque être humain porte en lui l'image d'un dieu créateur, ça détruit à la racine toute fondation intellectuelle ou spirituelle pour les systèmes de classe sociale, le racisme, le sexisme ou, enfin, toute forme de déshumanisation.
Ce ne tient plus debout.
Les hiérarchies oppressives deviennent non seulement moralement indéfendables, mais théologiquement absurdes dans ce cadre-là.
Et cela m'amène à une réflexion finale, tirée du Nouveau Testament d'ailleurs, qui souligne cette absurdité de façon très crue. L'épître de Jacques, au chapitre 3, pointe une incohérence humaine majeure. Il dit qu'il est profondément illogique d'utiliser notre langue pour chanter les louanges du Créateur et l'instant d'après, utiliser cette même langue pour maudire des êtres humains qui sont fabriqués à son image.
C'est un point puissant. C'est comme admirer le peintre tout en crachant sur sa toile maîtresse.
C'est exactement ça, le paradoxe ultime de cette condition d'exilé qu'on a explorée aujourd'hui. On reconnaît la royauté du Créateur, mais on nie l'ADN royal de nos semblables.
C'est une dissonance cognitive terrible, en fait.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si on suit les implications de ces sources jusqu'au bout, on se rend compte que la prochaine fois qu'on croisera un être humain, même notre adversaire politique le plus féroce, même la personne qui nous exaspère le plus au quotidien dans les bouchons, on devra se rappeler que cette personne possède intacte l'empreinte d'un amour cosmique incommensurable. Si cette personne n'est pas une simple anomalie biologique, mais une royauté en exil, comment cette perspective devrait redéfinir la nature de nos conflits, la violence de nos débats et la manière dont on jugera les autres dès demain matin ? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde, à méditer profondément.